Donc, bienvenue et à notre septième jeudi oui. Merci d'avoir dit oui ce soir. Et le thème de ce soir, c'est le combat spirituel. Je commence avec un texte de Saint Paul pour qu'il nous mette un peu dans le bain. Est-ce qu'on peut juste... Non, mais enlever le projecteur. Donc, le texte, c'est son épître aux Éphésiens, chapitre 6, 11 à 18. Vous connaissez déjà le texte, mais inutile de vous... Bon, d'accord. Je vais juste pour ceux qui n'ont pas encore... ils ont une petite confusion entre Éphésiens 5 et 6. Alors, 6, 11, 18, c'est... Saint Paul lui dit, « Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre les êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, la principauté, la souveraineté, les esprits du mal qui sont dans la région céleste. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, en ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez la casque du salut et la glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à les supplications pour tous les fidèles. Donc là, Saint Paul nous donne une jolie image de ces combats spirituels dans lesquels nous nous trouvons, en nous donnant tous ces moyens qui sont à notre disposition pour gagner justement ces combats. Et ces combats, il est quand même partout dans la Bible. Si on regarde Jésus qui part au désert au début de son ministère pour être tenté par le diable, autrement dit, pour le vaincre, le diable. Et quand on lit dans le jardin de Gethsémani, ce qu'on va contempler jeudi soir, jeudi prochain, on voit qu'il est quand même effrayé dans cette bataille, qui invite ses apôtres aussi de prier avec lui, afin de ne pas succomber à la tentation. Et à la fin de ce combat spirituel dans lequel le Christ se trouve, l'ange vient le porter au réconfort, pour le fortifier, pour ce qu'il y a à accomplir. On parle aussi de nos anges gardiens qui sont autour de nous, qui nous accompagnent jour et nuit, qui veillent sur chacun de nos pas pour nous éloigner du mal. Donc, en parlant de ces combats spirituels, qui est un ennemi de notre combat, ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas le but de penser à ce qui pouvait aller mal, mais c'est plutôt d'être conscient de cela. Quelques-uns, peut-être vous avez eu la grâce de participer à notre concert sur John Henry Newman, le texte de le songe de Gerontius. Si vous n'avez pas assisté, vous pouvez toujours commander sur Amazon, sans faire de pub, son livre, qui est vraiment une petite perle. Et justement, ça raconte l'histoire de ces Gerontius, un veillard qui est en train de mourir et ce qu'il est en train d'expérimenter. Et justement, au moment où il meurt, c'est son ange gardien qui le prend dans ses bras. Il l'amène vers Jésus. Et pendant ces trajets, et toute une conversation qui se passe entre eux. Et ça, c'est vraiment beau. Et au moment donné, il passe devant l'enfer. Il entend les démons qui crient, qui râlent, les injures, tous les blasphèmes. Il dit, mais Gérontius qui passe devant, il dit, mais ils sont quand même impuissants, ridicules. Et pourtant, il dit, sur terre, on leur prête une force et une habileté prodigieuse. Et là, son ange gardien répond, mais Gérontius, depuis ta naissance, tu avais un traître niché contre toi, ligué avec la puissance de l'enfer, qui ouvrait ton cœur à ton pire ennemi. Mais lorsqu'un enfant de la grâce, soit un ange ou un saint, pur et droit dans l'intégrité de sa nature, s'oppose à l'incursion des démons, il refuse le combat et lâchement t'étale. Ça, c'est le combat spirituel. C'est savoir qui est cette personne qui veut, ou ces êtres spirituel qui veut nous séparer de Dieu en nous séparant aussi des autres, mais ils sans aucune puissance. La puissance vient du Seigneur. C'est pour cela qu'on ne doit jamais avoir peur de ce combat et de savoir comme il dit Newman, il suffit d'être pur et droit dans l'intégrité de notre nature. Et le mal n'a aucune chance de résister ou de perdurer. C'est pour cela, même si nous sommes conscients de cela, on a besoin, mais on tombe quand même. On pêche tout le temps. Donc, pourquoi on arrive, même si on sait que ce combat est là, pourquoi on ne gagne pas chaque fois, même si le Seigneur nous a donné tous ces éléments ou toutes ces âmes spirituelles. Mais je crois que c'est par ruse et de confusion que le diable réussit à nous faire tomber. C'est pour cela, en concentrant sur ces âmes que Saint Paul a énumérées, la vérité, la justice, l'annonce de l'évangile, la foi, la parole de Dieu et la prière, c'est de deviner et de rester enfant de la grâce, pur et droit dans tout ce qu'on entreprend. L'objectif de diable, c'est qu'on fasse du mal, qu'on fasse le mal, ou en tout cas remettre pour plus tard le bien que je devrais faire aujourd'hui. Mais il sait, s'il présente le mal comme ça, ben on va fuir de cela. Ce serait difficile à nous convaincre. Donc, il cherche des moyens pour nous convaincre de justifier le mal que je suis en train de faire, de dire, voilà, pour justifier pourquoi je le fais, mais normalement, je ne fais pas, mais bon, l'autre, il est tellement, voilà, qui me met hors de moi-même, voilà, et l'autre mérite, je n'en peux plus, etc. Et tout cela, c'est un processus. Et si on peut démasquer ces ruses, plus vite, on devient pur et droit, et le mal doit partir. Le premier pas, c'est de nous distraire de Dieu. Est-ce que ça vous arrive, quand vous priez, de penser à autre chose? Mais tu sais, le prêtre, ça ne nous arrive jamais. Tu vois? Ah, voilà. Mais en fait, c'est partie de la bataille de la prière. Et c'est là, justement, l'ennemi, il dit, mais il faut faire tout pour éviter que tu restes avec lui, parce que sinon, je suis perdu. Donc, si, quand je prie, je suis étonné par le nombre de distractions que j'ai, je n'ai pas compris que je suis dans un combat. Mais quand je sais que je suis dans un combat, Alors, je hausse mes manches en disant, allez, je sais que quelqu'un veut me distraire, mais je vais vaincre. Je vais revenir. Vous savez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'était pas super bonne pour l'oraison. C'est elle qui le dit. Le nombre de fois qui, pendant son oraison, il s'endormit carrément. C'est l'oraison horizontale. Voilà. Et repose dans l'esprit. Le bouche ouverte. Voilà. Alors, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte pour la énième fois, elle perd la bataille. Ou elle perd le combat, pas la bataille. Au lieu de dire, oh, je suis nul, je crois que je vais faire autre chose dans ma vie parce que là, je suis pas fait pour ça. Elle dit, Seigneur, je suis endormi, mais tu m'as réveillé. Me voici, je suis tout à toi. Quelle sagesse. Parce que même si le Seigneur qui le réveille, et elle, une fois réveillée, elle ne pense qu'à ses fautes, elle ne pense pas à Dieu en fait. Elle est encore distraite par autre chose. En plus, son ego, moi, pourquoi j'arrive? Elle est tournée sur elle. Et la prière, c'est d'être tournée vers Dieu. Quelle sagesse et simplicité de cœur de dire, ah, j'étais distrait, et maintenant je suis là. Et de voir aussi dans ce processus que la présence de Dieu qui me tape, ah, désolé, je suis tout à toi. On continue. Ça, c'est gagner le combat. Oh, combien de fois, quand je contemple, ou je vais prier, ou que ça m'inspire, du coup, il y a plein de petites choses qui deviennent assez urgentes, quoi. Il faut que je fasse ça, ou je fais ça d'abord, et après, je passe à la prière. J'ai jamais vu que les vitres, ils sont assez sales, quoi. Donc, voilà, je commence à. Voilà. Ouais, je vais juste mettre cette machine, et voilà. Après, je reviens à la prière. Il y a 2 jours, voilà, j'ai un bloc de l'après-midi, je sais que je vais prier mes vêpres. Et voilà, au début de ce bloc, je dis, mais je sens, Seigneur, mais on va prier tes vêpres. Il dit, mais non, j'ai tout l'après-midi, là, je fais ça à la fin. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Il y a des imprévus, un truc qui durait plus longtemps que prévu. Et du coup, j'enchaîne avec d'autres réunions, le dîner, voilà. À la fin, j'ouvre mon bréviaire le lendemain matin, il est marqué sur la page des vêpres. Oh Seigneur, je suis désolé. Il me dit, c'est pour ça que je t'avais dit. Je t'avais prévenu. Tu ne veux pas me croire. Donc ces inspirations que le Seigneur vient pour prier, ce n'est pas parce qu'il veut nous embêter, ou c'est un devoir à accomplir. Quand il m'inspire, il sait que c'est le moment que j'ai besoin. Il y a une dame de la paroisse en Australie qui m'a donné un conseil que j'ai jamais oublié. C'était quoi? Non, c'est il dit, Richard, quand tu as moins envie de, le moment que tu as le moins envie de prier, c'est le moment que tu as le plus besoin. Donc si tu es têtu, tu peux canaliser cet entêtement vers le bien. Ah, tu vois pas que je prie? Ah, tu verras. Je fais plus. Parce que le Seigneur, il sait qu'est-ce qui est en train de se passer. Il sait que j'ai besoin de grâce en ce moment précis. C'est pour ça qu'il m'appelle à prier. Et même si j'ai plein d'autres choses qui sont légitimes, il dit, mais fais-moi confiance. Je m'occupe de toi. Si je t'appelle à la prière, c'est pas pour tout, voilà, tomber à l'eau. Et combien de fois, je n'ai pas encore pris mes vêpres. Vous avez dit que j'ai pris jamais mes vêpres. Et là, mais je suis en retard pour un dîner. Et là, je dis, soit je prie mes vêpres, ou je suis ponctuel pour le dîner. Je suis mal éduqué d'être arrivé en retard. Donc, ben, je vais au dîner. c'est pas une confession, mais... Et j'arrive, et le mari, il n'est pas encore rentré de boulot. Ben voilà. Et Seigneur, il me dit, je t'avais dit. Il y avait du temps. Où tu vas à la messe, et pendant la lecture, en train d'écouter, au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu es distrait par comme il lit mal, voilà. Oh, il a un accent, on ne comprend rien de ce qu'il dit. Oh, je vois cette personne en face, comme elle est moelle coiffée quand même. Quand tu sors de chez toi en dimanche, la parole de Dieu est là, mais je suis distrait par autre chose. Donc je trouve des moyens de ne pas être distrait. Autre moins distrait. Si je prends ma parole de prière ou magnificat ou autre chose, je le texte devant moi. Tu vois, il y a des moyens pour gagner ces batailles. Donc ça, c'est le premier, distraction. Deuxièmement, deuxième étape, encore plus loin, c'est le découragement. Si on passe à ce stade-là, ça serait devenu plus difficile. Alors, ce découragement, ça peut être envers moi-même. Disons, conclusion, je n'arriverai pas. Là, on n'est pas dans la vérité. Parce que qui te dit que tu dois de le faire avec tes propres forces? La vérité, c'est que ces batailles spirituelles, tu ne peux pas gagner toi-même. Tu as besoin, comme moi, on a tous besoin, d'appuyer sur la force de Dieu. C'est vrai, toute seule, je n'arriverai pas. Ça, c'est vrai. Mais de dire « je n'arriverai pas », ça veut dire « je ne compte pas sur la force qui vient du Seigneur ». Je peux prendre de résolution. Alors l'ennemi, il aime quand on prend une résolution. Plus grand notre découragement quand on ne l'accomplit pas, non? Je vous pose des questions à votre carême, ça va? Alors lèvez la main qui a accompli parfaitement sa résolution, d'accord? Quelqu'un qui m'a dit, carême, complètement raté. Il m'a dit, c'est aujourd'hui. Ben, je dis, mais c'est pas fini, non? Parce que je n'ai pas arrivé jusque-là. Bon, à quoi bon persévérer jusqu'à la fin? Parce que voilà, jusque-là, je n'ai pas fait. Ça, c'est le découragement. Et ça, ça vient pas de Dieu. Dieu dit, il y a encore le temps. Commence. Et en tombant, mais en se relevant avec la grâce de Dieu, en persévérant, on forme des muscles spirituels. Et ça devient de plus en plus habituel. Si je me décourage et je baisse les bras, je ne vais pas avancer. Oh, je pense que pour les autres, ça doit être beaucoup plus facile parce que pour moi, c'est galère. On n'est pas dans la vérité non plus. Pour tout le monde, c'est dur. Oh, je me décourage, moi, ça peut être envers les autres. Tellement de méchanceté dans le monde, les guerres, tout va mal, etc. Oh, bah, si je regarde le BFM TV tous les journées, je suis sûr que je vais être découragé, et voilà. Et ça, c'est Philippe à me fait douter de Dieu, de sa présence, qui me donne zéro espérance. Et quand je suis dans cet état, on laisse tomber. Et là, la bataille est en train d'être perdue. Troisième niveau, l'autre tactique, c'est d'alimenter nos peurs. Peur de l'avenir, peur de la progression d'une maladie, peur pour moi ou pour les autres, mes enfants, etc. Et là aussi, on n'est pas dans la vérité. Parce que ces choses qui me font peur, ou je me projette sur des choses qui pourraient m'arriver, ils ne sont pas encore réalité. sont irréelles. Ça n'existe pas. Ça pourrait exister, peut-être. Mais je ne suis pas encore là. Donc je suis inquiet pour les choses qui n'existent pas. J'attache une importance à ces choses comme ils deviennent réelles, en fait. Ils sont que de peur. Et Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Pourquoi il dit n'ayez pas peur? Parce qu'il sait qu'il est là, mais il sait que le peur nous abîme. Donc, tout ce qui vient de nos peurs, il faut repousser, parce que ça ne vient pas de lui. Et en repoussant, on rentre plus dans la lumière. On peut être absorbé par nos problèmes, et ça nous rend de moins présents aux autres. Moins dans le moment présent. J'utilise cette image de quand vous êtes parti en vacances, vous avez hâte d'y arriver, non? C'est le but. Mais il faut penser à tellement de choses, etc. Et le matin, on s'engueule parce que tu as oublié ça et tu ne vas pas plus vite. Voilà. Ah, tu es en retard, il fallait partir à 6h moins 4, c'est 7h30, c'est pas possible. Voilà. Après, on passe 3 heures dans la voiture, silence, voilà. Voilà. Comme si l'objectif, c'était arriver. Parce que je dis, une fois que nous sommes arrivés installés, ça va être bon. Mais qui dit c'est l'objectif? Pourquoi je m'attache à ça? Ce que j'ai prévu en plus. N'est-ce pas l'objectif, c'est le moment présent. Le voyage. Regardez le paysage. Et toutes ces personnes qui conduisent pas assez vite, voilà, ils sont juste en train de, voilà, de compliquer ma vie. Et comme ça, peut-être j'ai envie de changer de voiture. Je regarde les autres qui roulent en Porsche Cayenne. Et nous, on est dans notre Twingo pourri, voilà. La jalousie. Ou peut-être j'ai envie de changer passager, voilà. Parce que voilà, la vie, ce serait plus simple. Et là, on n'est plus dans l'amour. D'accueillir le moment présent, la personne qui est présente, avec toutes ses qualités, mais aussi ses faiblesses. Et quand je suis avec le Seigneur, il me donne, il ne voit pas juste les fautes dans l'autre, mais il voit aussi ses qualités, mais les potentiels que ces personnes pourraient devenir. Et qui renferme personne dans ce qu'il est actuellement. Donc, le début du combat, c'est le plus important. Tout ce que je peux faire pour me rester dans la présence de Dieu. La prière, de persévérer dans ces batailles, la foi, de voir, demander ses grâces, de voir les autres tels comme le Christ les voit, de voir tout à travers ses yeux, et laisser cette paix inonder mon cœur en sachant que la vérité, je suis entre ses mains et je serai toujours. La parole de Dieu, qui est lumière pour mon âme. Comme il dit Saint Paul, la justice. Sur toutes les actions, je peux mener envers les autres. On le voit, le cœur centré sur mes problèmes, mes peurs, voilà, mon découragement. C'est d'être présent aux autres, dans la condition dont je suis. L'annonce de l'Évangile. Dit Saint Paul. Si vous n'avez pas déjà prévu que ce que j'ai fait samedi matin, vous aurez l'occasion. Notre opération Rameau, il y aura 2 ânes là pour vous aider. Et on va à l'encontre, à la rencontre de personnes, de porter cette bonne nouvelle qui nous fait vivre. Donc, comme temps de partage que je vous propose maintenant, c'est de partager dans vos petits groupes une grâce que vous avez reçue pendant ces temps de carême. Quelque chose qui te fait chaud au cœur et que tu dis, là, le Seigneur est présent. Une petite perle que vous avez reçue. Ou peut-être une deuxième partie, si vous souhaitez, de partager quelque chose que vous avez découvert pendant ces temps de carême qui vous a fait un bien dans votre vie spirituelle. D'accord? On se donne jusqu'à 35, 15 minutes. Ça va? Allez, à l'attaque.